Rubrique dans le monde. Poutine veut des Jeux olympiques à son image. Avant même que ne s'ouvrent les 22e Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, station balnéaire russe située au pied du Caucase, le président Poutine faisait déjà figure de grand vainqueur dans de nombreuses disciplines, il est vrai pas vraiment olympique. Côté sécurité, alors que les indépendantistes islamistes du Caucase russe ont juré de saboter la fête et ont déjà organisé 2 attentats non loin de là en décembre, le Kremlin, qui mène une répression sans pitié dans toute la région, a déployé des moyens et des forces fantastiques pour placer les sites olympiques sous une bulle policière censée être étanche. Un coût exorbitant. Le coût de ces Jeux olympiques, officiellement annoncé à 37 milliards d'euros, alors que les précédents à Vancouver avaient coûté 25 fois moins, est le plus élevé de toute l'histoire de l'olympisme d'hiver ou d'été. Cela n'a rien d'étonnant. Poutine veut faire des JO de Sotchi la vitrine de la puissance retrouvée de la Russie, de son retour en fanfare dans le concert des nations et de la consolidation de l'État russe dans ce Caucase où des terroristes le contestent depuis 2 décennies. Alors, le Kremlin n'a pas lésiné sur les moyens. Le chantier olympique, avec ses sites surgis en 5-6 ans à peine, a mérité le qualificatif de pharaonique. C'est vrai pour l'étendue des travaux, infrastructures, réseaux autoroutiers et ferrés, villages olympiques, hôtels, équipements sportifs, stations de montagne, pistes, etc. ont dû être créés à partir de rien. Mais c'est vrai aussi des méthodes employées, celles qu'affectionne le régime de Poutine. Des conditions de travail esclavagistes. Pour édifier 400 ouvrages, on a saccagé l'environnement dans ce qui était censé être des sanctuaires de la biodiversité sans que cela émeuve le CIO, Comité Olympique International. Des centaines de milliers de travailleurs, recrutés dans les régions pauvres du pays ou dans des républiques ex-soviétiques, ont été traités comme du bétail, hébergés sur les chantiers même, payés quand ils l'étaient à des salaires dérisoires. Le CIO, qui se rengorge de formules ronflantes sur l'idéal olympique, n'a rien voulu en savoir. Des ONG ont protesté. On les a fait taire. La presse russe, elle, n'a pas pipé mot. Elle savait ce qu'elle risquait. Pour financer tout cela, l'État a puisé dans la manne pétrolière. Pour faire bonne mesure, le tsar Poutine a un peu forcé la main des magnats de la finance Potanine et Deripaska, appelés à faire construire à perte, dit-on, certains équipements. Il n'aurait tout de même pas fallu que ces gens qui doivent tout au régime ne participent pas au triomphe de Poutine. Mais, connaissant leur méthode, on sait qu'ils vont se rembourser au centuple. Derrière le clinquant des villages olympiques. La Russie de Poutine n'a certes pas le monopole de l'utilisation politique des JO, ni celui du gâchis et des détournements entourant de tels budgets. Les États qui se battent pour accueillir ce show sportif mondial en attente des retombées en tout genre pour leurs gouvernants et pour les entreprises et affairistes. Tourisme, construction, sport, télévision, publicité, sponsoring, etc. qui grouillent autour du pot de miel. Dans le cas de la vitrine dorée de Sotchi, on voit tout le profit que Poutine, les autorités locales et les privilégiés du régime en escomptent. Quant à la population, si elle est appelée à applaudir au succès des sportifs et plus encore de Poutine, ces JO ne lui apporteront rien. Ces milliards dépensés autour d'installations de prestige, dont on sait déjà qu'elles ne seront pas mises à la disposition de la population après les Jeux, auraient évidemment trouvé à s'employer dans bien d'autres domaines. À commencer par le Caucase, où un chômage massif, couplé aux exactions de l'armée et de la police du Kremlin, est le meilleur recruteur des terroristes islamistes. Dans bien d'autres régions, où tout est laissé à l'abandon depuis la fin de l'Union soviétique, cet argent aurait aussi été bienvenu. Et même dans le domaine du sport, jadis enfant chéri du régime soviétique. Aujourd'hui, en Russie, il n'y a plus ces systèmes publics qui, jadis, permettaient aux jeunes des milieux populaires de pratiquer un sport, y compris de haut niveau, pratiquement sans rien dépenser. L'adhésion à un club, l'accès au terrain de sport, sont généralement devenus si coûteux que, dans bien des cas, la pratique d'un sport n'est accessible qu'aux riches et à leur progéniture. Tout cela est de notoriété publique. Les bureaucrates enrichis y voient la marque de leur statut de privilégié. L'État russe n'y voit bien sûr rien à redire, mais le Comité international olympique non plus. Quant aux commentateurs, journalistes et autres, JO ou pas, en Russie ou ailleurs, ce ne sont pas les conditions des classes laborieuses qui les préoccupent le plus. Pierre Lafitte. Les JO de Sotchi ont déjà décroché la médaille d'or de la corruption. Boris Nemtsov, qui avant de passer à l'opposition fut vice-premier ministre du président russe Yeltsin et a donc acquis une expertise de première main en la matière, avance le chiffre de 22 milliards d'euros, 60% du coût avoué de ces JO, pour la corruption autour des seuls chantiers de Sotchi. L'estimation, encore un record, vaut ce qu'elle vaut. La flamme olympique, modèle de technologie russe, dit-on, elle, ne vaut pas grand-chose. Promener du pôle Nord au sommet de l'Elbrus, 5642 mètres, et même dans l'espace, elle a multiplié les ratés à l'allumage. Une partie des fonds destinés à sa mise au point aurait été détournée. En revanche, les pots de vodka distribués aux designers pour que ladite flamme rappelle le logo d'une marque d'alcool russe n'ont pas été versés en vain. Il s'agit d'une copie conforme. PL.